Effectivement, ce livre, ça a été un challenge, parce qu'on l'a fait en un peu moins d'une année. Je l'ai relu récemment, je me suis dit que ce serait peut-être bien que je me remémore un petit peu tout ça. Et ce qui m'a frappé, c'est vraiment effectivement la richesse de ce livre. Cette richesse, on le doit essentiellement à la capacité de travail de Marilyn, qui est juste incroyable. Et aussi à sa volonté, son amour des hommes et des femmes qui sont dans ce territoire. Donc c'est une capacité de travail, mais c'est aussi le fait de vouloir vraiment aller à la rencontre des gens et de tous les passionnés de ce territoire. Je voulais vous proposer une petite balade rapide, parce que ce livre, c'est une balade dans le temps, d'abord. Lorsqu'on le parcourt, au fil des pages, on s'aperçoit, déjà on fait un petit tour dans la botanique. On s'aperçoit qu'il y a un jardinier de Louis XIV qui était passionné des fruitiers et qui a créé la discipline qui s'appelle la pomologie. Et puis, on est allé taper à la porte de l'association Les Croqueurs de Pommes. On est allé voir Daniel Bonne. Il nous a un petit peu expliqué, donné son savoir, ses informations. Et ce qui m'a frappé dans tout ce qu'il nous a appris, c'est que les études montrent que la poire Sarteau blanche est vraiment quasiment endémique de Drex. Endémique, ça veut dire qu'on ne la retrouve nulle part ailleurs sur la planète, ce qui est assez incroyable. On apprend aussi qu'entre la Sarteau rouge et la Sarteau blanche, il n'y a pas vraiment de relation génétique. C'est pas des clones. C'est la Sarteau blanche est vraiment à part. Et c'est quand même étrange parce que c'est deux poiriers très proches qui ont exactement la même saveur et qui ne sont pas liés génétiquement. Donc il y a bien quelque chose qui fait qu'ils ont la même saveur. C'est quoi? C'est le climat, c'est la géologie. Donc on est allé voir des géologues. Donc on est allé voir le géoparc de Haute-Provence. On a pu travailler avec Jean-Simon Pagès. Je suis très heureux d'avoir travaillé avec Jean-Simon parce qu'il partait à la retraite. On n'avait pas eu l'occasion de travailler ensemble. Donc on a travaillé ensemble pour le livre du Géoparc et on a ensuite travaillé ensemble sur ce livre. Donc pour moi, j'ai vraiment été très heureux de pouvoir rencontrer vraiment Jean-Simon à cette période avant qu'il passe la main à Jérémy Subias, qui est le directeur actuel. Et qu'est-ce qu'il nous a appris, Jean-Simon? Et ben, c'est compliqué la géologie. C'est tout de suite des termes techniques, le Jurassique, le Crétacé, les anticlinaux. Et voilà, on s'y perd très vite. Donc on s'aperçoit que ce paysage, c'est Robin. On nous dit que c'était au fond d'un océan, que ça a 180 millions d'années, et puis que ça s'est accumulé comme ça, pendant à peu près 10 millions d'années. Et puis un jour, ça s'est soulevé, et ça a fait ces paysages. On est allé voir ensuite Sébastien Klotz, donc, qui travaille sur ce territoire, à l'observatoire Drex-Bléone. Et qui étudie l'érosion. Et qu'est-ce que nous dit Sébastien? Il nous dit que ces terres sont exceptionnelles, parce qu'elles ont une érosion qui est quasiment unique. Unique aussi à l'échelle de la planète. Et il nous dit que si un jour le Rhône, le delta du Rhône se comble, se bouche, c'est un petit peu notre faute. Ça, c'est incroyable. Il faut savoir que toute cette terre, via la Bléone, via la Durance, termine dans le delta du Rhône. Et que c'est 14% des sédiments. Ce petit pays-là a des conséquences énormes, cette érosion-là a des conséquences énormes sur tout le territoire de la région. Donc il y a toujours cette connexion sur un petit pays et ce qui se passe autour. Donc cette géologie fait les paysages. Ensuite, lorsqu'on est sur le paysage, forcément il y a la richesse, la biodiversité végétale, animale. Donc on est allé voir Nicolas Morel qui travaille à l'agglo et qui est passionné du territoire. Et là on apprend qu'il y a des espèces qui sont aussi exceptionnelles. Je vais vous raconter une petite histoire à une photo. J'ai voulu aller prendre en photo le village du Cucuyon, qui est le sommet qui est juste là. Donc il y a un peu plus d'un an, au mois de septembre, je monte au Cucuyon en fin de journée. Je voulais avoir les belles lumières d'automne qu'on a actuellement. J'arrive au Pas d'Archaï, qui est le col entre le Cucuyon et le Pic de Coire. Et je me dis, là je suis vraiment dans le milieu de la vipère d'Orsini. Cette vipère, pareil, endémique. Elle existe quasiment dans aucun endroit du monde. Je me dis, bon, c'est trop tard dans la saison, c'était 17h, il faisait froid. Je fais quelques pas vers le Cucuyon, et je tombe sur une vipère magnifique qui barrait le sentier. Donc j'ai fait cette rencontre qui est vraiment beaucoup d'émotion pour moi, parce que c'est un animal d'exception. C'est une vipère qui se nourrit que de criquets et de sauterelles, donc absolument pas dangereuse, absolument pas agressive. C'est plutôt moi qui l'ai embêté pendant un bon moment pour la prendre en photo. Et vous avez sa photo voilà, dans le livre, et ça pour moi c'était une très belle rencontre. Et ensuite, au sommet, j'ai eu un spectacle époustouflant avec cette lumière d'automne. Et vous verrez dans le livre, page 4, je crois qu'il y a la photo du livre, il y a la photo du cheval blanc avec cette magnifique lumière. Donc là, on est sur ces paysages-là. Et forcément, quand l'homme est arrivé, il a commencé à nommer tout ça. Et donc, il y a aussi des hommes qui sont des femmes qui sont passionnées par l'origine des mots. On appelle ça la toponymie. Donc nous sommes allés voir Jean-Claude
Hippolyte et Madame Magnon Tex, qui sont passionnés. Jean-Claude Hippolyte est géologue aussi, mais il est aussi passionné par tous ses savoirs. Il travaille, il va voir les anciens pour connaître le nom des choses réellement. Et on apprend qu'on est sous un corbeau, parce que le pic de Coire, ça vient visiblement du corbeau. Donc nous sommes sous un corbeau et un cheval blanc. Et l'eau coule vers une rivière, qui est la rivière du Loup, car la Bléone viendrait du Loup.
Donc nous sommes entourés de tout ça.
Et toujours au sommet du Cucuyon, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un passage, parce que je voyais... Vous ne voyez pas le col de la Cine, il est un peu plus derrière, mais je voyais le col de la Seppe. J'ai fait aussi le puits de la Peine qui descend sur Tartonne, la baisse de Pompe, tous ces passages-là. Ben on arrive dans le domaine de l'archéologie, parce que Madame Isouardi, archéologue, nous a aussi fait la joie de nous donner tout son savoir. On a retrouvé des objets en bronze. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est que nous avons rencontré le premier habitant de Drex connu, un certain monsieur Léo Trigus. Vous ne l'avez pas croisé aujourd'hui, parce qu'il vivait en l'an 814. Mais j'ai trouvé ça incroyable. Donc tous ces passages-là, le fait aussi qu'aujourd'hui Drex est un village qui est, on va dire, un cul-de-sac, mais qui en fait est un passage très important pour aller dans le Verdon. Donc tout ça aussi, on découvre tout ça. Et on s'aperçoit à quel point ce voyage dans le temps est vraiment passionnant. Et on se rapproche comme ça au fil des pages, on remonte le temps. Et on voit aussi toujours du Cucuyon, la ferme des Belons, et tout le travail qui a été réalisé avec Jean-Christophe Labadie, qui nous explique ces pages sombres de l'histoire. L'arrestation des résistants, nous sommes dans les années 40. Donc là on se rapproche, c'est souvent l'âge de nos parents, grands-parents, c'est l'enfance de Claude. C'est des pages de l'histoire qui sont aussi très importantes. Et donc, petit à petit, on se rapproche de l'histoire de cette poire Sarteau, qui fait que, comme l'a si bien écrit Sébastien, lorsqu'on tient dans le creux de sa main cette petite poire, on contient tout le pays. C'est exactement ça. Et donc là, on en vient à l'histoire
de la famille, de ces récits qui sont incroyables. Le récit de Paul Martin qui raconte ce muletier brise l'âme. C'est un texte que j'adore. Quand Roger Allois raconte la cueillette de la lavande dans le Cheval Blanc, c'est des textes qui sont incroyables, qui vraiment, moi en tout cas, me touchent beaucoup. Et on arrive ensuite à cette histoire de l'homme le plus têtu que je connaisse, Claude. Voilà. Son père lui dit « je vends ». Ben non, il refuse. Ensuite, le confiseur lui dit « j'ai plus d'éplucheuse », parce que c'est des générations qui s'en vont, et voilà, ça évolue. Ah ben on va éplucher. Et le confiseur dit « je vends ». Eh ben, je te rachète ton matos et je deviens confiseur. Têtu. Hein. J'en finis là, j'étais un peu long, désolé, mais vraiment, je trouve que il y a tellement de choses à raconter qui sont passionnantes, qui vont bien au-delà de ce qu'on est là aujourd'hui, mais voilà, c'est connecté à toute la planète entière. Et je voulais juste terminer en faisant un hommage aux deux personnes, donc les plus têtues que je connaisse, à savoir Claude et Marilyn. Merci.